Donc, je donne la parole à Bruno Taquès, qui est essayiste et dramaturge, également agrégé et docteur en philosophie, qui va nous parler de scènes de recherche, de la recherche au cœur même de la création.
Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Oui, effectivement, je vais me décaler un petit peu en sortant du champ de la littérature pour évoquer l'ensemble de ce qu'on appelle le champ de la création, qui est un terme bien compliqué, qui est d'ailleurs le terme qui se trouve au cœur de l'intitulé de ces rencontres. Je me situe déjà pour vous dire l'endroit où, effectivement, je suis agrégé de philosophie et professeur, mais je suis également chargé de mission au ministère de la Culture, précisément à la Direction générale de la création. Et par une sorte de logique très paradoxale, on peut dire que la recherche, c'est le plus vieux métier du monde, en tout cas le plus vieux métier du monde des artistes, puisque, à l'évidence, tout artiste cherche, tout artiste est en mouvement, en permanente négociation avec les limites de son art, ce que vous avez très bien raconté sur la littérature. Il y a cette négociation, et cette négociation est une recherche, forcément. Mais cette recherche ne se formalise pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir un grand écrivain, un grand romancier, un grand peintre, un grand musicien qui produit une œuvre théorique, qui produit une œuvre réflexive et qui objective d'une certaine façon son travail. C'est tout le paradoxe. À la fois, la recherche est partout dans l'art et du coup, bien souvent nulle part, ou en tout cas pas de manière très identifiée. Et il est quand même frappant de se dire que cette direction de la création ne s'est dotée d'une mission recherche qu'il y a quelques mois, au mois de juin 2015, pour être précis. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y avait pas de la recherche et des formalisations de la recherche dans le ministère. Vous avez évoqué l'IRCAM, bien évidemment qu'il y en a. Il y en avait également dans les écoles d'art, il y en avait dans des foyers comme ça, très éparpillés. Et le projet donc de cette nouvelle direction, de cette nouvelle sous-direction, pour être précis, c'est bien de redonner au fond une visibilité à cette part du travail de l'artiste qui n'est pas la production, qui n'est pas la diffusion, qui est ce troisième élément qu'on peut s'accorder à nommer recherche, mais il y aurait certainement d'autres termes. Dans le champ du théâtre, par exemple, on dirait plutôt dramaturgie. Par exemple, le terme dramaturgie est le terme qui recouvre exactement ce que l'on parle quand on parle de recherche en art. Alors, je voudrais commencer par faire quelques petites précisions, on va dire terminologiques ou lexicales, pour dire que cette recherche dont je parle, c'est une recherche en art et non pas une recherche sur l'art. Il ne s'agit donc pas d'objectiver l'art. Cela est très bien fait par l'université, cela est très bien fait par l'ensemble de la structure académique de nos pays. Donc il n'y a pas à empiéter ou à refaire des choses qui se font déjà. Quand on parle de recherche en art, on parle d'une recherche qui démarre depuis l'endroit de la création, c'est-à-dire depuis le foyer où s'est créé l'atelier du peintre, le studio du danseur, le plateau de répétition des acteurs. Et c'est depuis cet endroit-là qu'un geste de recherche s'élabore, parce que j'appellerais un désengagement. C'est un moment où l'artiste ou les artistes se désengagent de leur travail, pour dire prennent du champ, prennent du recul, et surtout l'objectif dans une autre forme. À mon sens, la définition de la recherche en art, c'est vraiment le passage, la traduction d'un médium à un autre médium. Il y a donc forcément quelque chose qui s'opère d'une extraction, d'un déplacement en dehors de son champ. L'exemple le plus emblématique de cette logique nous est donné par les peintres, les frères Van Eyck. Les frères Van Eyck sont extrêmement célèbres. Ils habitent à Leiden, ils ont un atelier. Ils peignent des polyptyques à tour de bras qui partent dans toute l'Europe. Et l'aîné des frères Van Eyck ne supporte plus son travail, cette espèce de productivisme permanent, cette routinisation aussi du travail. Et il confie les clés de l'atelier à son frère, son jeune frère. Il part voyager en Europe. Il part 12 ans, ce qui est considérable pour l'époque. Et il va voir les plus grands savants, les plus grands intellectuels, on dirait aujourd'hui, partout en Europe, dans toutes les universités européennes. Et évidemment, de fil en aiguille, par ses rencontres, par ses séjours, il glane énormément d'informations et surtout de savoirs nouveaux qui sont en train de s'inventer dans tous les domaines, en astronomie, en architecture, en biologie, dans toutes les directions. Il cherche, d'une certaine manière. Et au bout de 12 ans, il revient à Leiden. Et à ce moment précis, il commence la production de l'agneau mystique. Et l'agneau mystique, ce qu'on ne peut plus du tout mesurer aujourd'hui, à l'époque, c'est un événement. C'est un événement, on pourrait dire aujourd'hui, culturel. Au sens où, par exemple, on fait la queue de très longues heures devant l'église pour voir l'agneau mystique. Pourquoi ? Précisément parce que les frères Van Eyck, dans ce polyptyque, d'une certaine manière, impriment le savoir dans la peinture. C'est comme s'ils avaient produit le premier PhD en peinture. Car au fond, c'est ça l'idée. C'est que les artistes sont tout à fait capables de faire des thèses de doctorat dans l'université, mais ils ont une chose, et certains le font, et c'est formidable, mais ils ont quelque chose en plus, c'est cette capacité à pouvoir cheminer à un autre endroit que leur art, parce que c'est ça toujours la définition, il y a une altérité, il n'y a qu'une sortie de son champ, pour ensuite le réintégrer dans ses propres dispositifs de création. Et cette logique que je viens de décrire rapidement, vous la retrouvez dans le travail de très nombreux artistes, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Il faut néanmoins préciser que vous avez des artistes qui sont totalement rétifs à cette logique-là, et qui pensent que l'art ne se formalise pas, que l'art n'a pas besoin de se justifier, de se justifier par des mots, de se fonder en principe. Et vous en avez d'autres, au contraire, qui disent que, comme vous l'avez extrêmement bien dit sur la littérature, le travail de l'artiste, c'est bien de questionner ses principes, de chercher les principes de son art, postulant qu'il y a des principes de son art. Vous avez donc deux courants qu'on pourrait qualifier de courants méthodistes ou méthodologiques, ceux qui cherchent une méthode, qui revendiquent qu'il y a bien une méthode. Vous avez, par exemple, en théâtre, Ariane Mnouchkine, qui est une des grandes figures de l'art théâtral, à dire « oui, il y a des principes, nous ne les connaissons pas, mais il y a des principes, nous devons donc les chercher ». Si on suit l'exemple d'Ariane Mnouchkine, il est très clair que la cartoucherie, à sa manière, a toujours été pensée comme un laboratoire. La cartoucherie est un espace, certes, où on joue des spectacles, où on répète des spectacles, mais c'est aussi un endroit où l'on cherche, c'est un endroit où l'on transmet. Un autre mot très important que je n'ai pas encore évoqué, la recherche est liée à la transmission. Il y a toujours l'idée que ce que l'on a fabriqué, on ne l'a pas fabriqué pour soi, mais on l'a fabriqué pour une communauté. La recherche suppose une communauté de pairs ou de gens qui s'accordent en tout cas sur une langue commune et dont le travail, dont la mission est d'élargir en quelque sorte le champ de cette communauté, le périmètre du savoir sur lequel se fonde cette communauté. Tous les grands artistes du XXe siècle ont eu ce rapport très fort à la recherche. Si vous prenez le spectacle vivant, ça commence au début du siècle avec Stanislavski, Meyerhold. Ça continue en Pologne avec Grotowski, la grande figure italienne de Strehler, jusqu'en France, Peter Brook, Ariane Mnouchkine que j'ai cité. Tous ces artistes se sont donné d'une manière ou d'une autre les moyens de favoriser, de protéger aussi cet espace-temps de recherche qui n'est pas l'espace-temps de la production. Peter Brook, quand il arrive en France, au moment de créer les Bouffes du Nord, avant même d'être dans le lieu, crée, il existe toujours, le Centre international de recherche de l'acteur. C'est la fondation même des Bouffes du Nord. Les Bouffes du Nord, c'est d'abord un laboratoire de recherche. Le fait, par exemple, que Brook soit parti en voyage, c'est un acte de recherche. Donc, vous voyez, il y a à la fois un socle commun avec le monde traditionnel de la recherche, et puis il y a une spécificité. Donc, toute la question pour nous au ministère, c'est d'adjointer ces deux logiques. C'est d'arriver à trouver, je dirais, une langue commune avec le monde de la recherche, et en même temps de préserver ce qui constitue à plein le régime de l'artiste, c'est-à-dire sa singularité. Il y a quelque chose dans le travail de l'artiste qui est une pure singularité. Alors, invention, oui. Innovation, tout de suite, moi, c'est un mot que je mets très à part, parce que c'est le mot avec lequel on nous bombarde aujourd'hui, pour juste comme opérateur de légitimité. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes pas innovateur, s'il n'y a pas d'innovation, si ça n'est pas innovant, ça n'existe pas. C'est vraiment pour moi un concept qui n'a absolument aucun sens, parce que l'innovation, c'est la définition même de l'art, et donc dans le champ de la création, reprendre ce mot qui vient de l'industrie, mais qui a pénétré nos champs, qui aujourd'hui, c'est même un mot obligatoire, si vous voulez répondre à un certain nombre de dossiers européens, un certain nombre de dossiers de l'Agence nationale de la recherche, par exemple. Ce mot clé, c'est un item, c'est une espèce d'entrée obligatoire. Il me semble qu'il faut complètement sortir de cette logique-là, en revendiquant chose qui serait peut-être pas loin de ce que vous disiez, qui serait plutôt l'idée que chaque artiste est un pur prototype. C'est-à-dire qu'il ne produit aucun modèle, il n'y a aucune possibilité d'imiter jusqu'au bout, c'est-à-dire l'imitation a toujours un reste, il y a toujours une impossibilité à atteindre le projet d'imitation, le projet de faire comme l'autre, et c'est bien la définition de l'art, c'est que plus on veut faire comme l'autre, plus on fait différemment. Grotowski avait une formule pour définir un disciple, il dit le disciple est à 110% des capacités du maître. Donc, processus d'imitation, certes, mais plus on cherche à imiter, plus effectivement on ouvre le champ de la nouveauté peut-être, ou en tout cas du non encore partagé. Moi, je m'accorde sur cette formule que la communauté des chercheurs, c'est du partage dont il s'agit. Et ce partage, c'est se mettre d'accord et se mettre en désaccord. C'est-à-dire qu'on transfère des connaissances jusqu'au moment où on les périme, où on les conteste, où on les dépasse. Sur la question précise du ministère de la Culture, nous sommes en train de nous doter d'un certain nombre d'outils pour mettre en œuvre cette communauté, pour faire vivre cette communauté de chercheurs en art. Le premier de ces outils, c'est un appel à projet dans les écoles d'art, puisque vous savez que maintenant, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur culture, il y a une mise aux normes, comme on dit, le fameux processus de Bologne, le LMD, licence, master, doctorat. Et donc, les écoles n'ont pas eu vraiment le choix. Elles se sont un peu inquiétées au début, mais elles ont été au fond un peu forcées d'entrer dans ce système du LMD. Il y avait des inquiétudes, et je dois dire qu'au bout de, on pourrait dire maintenant, 10 ans dans les écoles d'art et de design, il y a vraiment une grève qui a prise. Il y a quelque chose qui s'est complètement déployé sur la base de quelque chose qui était une contrainte, il faut le dire, et qui aujourd'hui commence à produire des effets assez remarquables. Juste 2 exemples. Vous avez maintenant obligation pour un étudiant de fabriquer un mémoire, alors qu'il est un jeune artiste en devenir. Ça sonne contradictoire, ça. Eh bien, peu à peu, cette double injonction a produit des effets considérables et est vraiment en train de structurer le travail des écoles, de leur permettre d'être plus fondées, plus solidement assises sur leurs bases. Deuxième exemple, les doctorats. Vous avez une douzaine d'écoles nationales donc, qui sont en train de mettre en place des doctorats, alors soit sous forme de dialogue avec l'université, soit sous forme de diplôme établissement, donc ministère de l'Enseignement, ministère de la Culture. Mais dans les deux cas, vous avez cette magnifique question qui se pose aux artistes ou qui se repose de manière plus formalisée, qui est comment est-ce que je transmets mon art ? Comment est-ce que je le passe ? Et cette question donne lieu à des phénomènes d'invention assez incroyables, puisque la règle, je dirais presque, la condition sine qua non pour que ce type de recherche ait lieu, et qui se déduit de tout ce que je viens de dire, c'est la liberté formelle. C'est l'idée que chaque artiste, dans son projet de recherche, doit se donner, et doit être capable de se donner, l'ensemble des conditions de démonstration de son travail. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de la forme, des protocoles, des stratégies que va prendre la transmission de sa recherche. Ça donne lieu à des doctorats qui sont en réalité pas très loin d'œuvres, donc qui sont quelque chose comme une contre-œuvre, une espèce de négociation, de dialogue tissé avec l'œuvre. Ça donne donc des doctorats qui sont plus que des doctorats, j'ai envie de dire, mais ça donne surtout, et c'est ça qui est réjouissant, chez les universitaires dont je suis, un très grand appétit. Je vois beaucoup d'universitaires, en particulier de la jeune génération, qui eux-mêmes se disent, mais la forme du doctorat, finalement, qui est la forme de passation traditionnelle, académique, de nos savoirs, n'est pas forcément la seule. Ou du moins, elle peut être repensée, elle peut être re-questionnée. On peut parfaitement penser que, en plus du texte, il y ait articulation, montage avec d'autres médiums. Vous avez de plus en plus de projets de thèse création maintenant où la part de l'image est assumée comme telle et comme texte, je dirais. Ce qui veut dire, par exemple, que la fameuse page de gauche dans l'université que nous n'utilisons pas, qui est une sorte de bande passante complètement fantomatique, eh bien, un artiste, évidemment, la première question qu'il se pose quand il fait œuvre de doctorat, c'est « Mais qu'est-ce que je fais de la page de gauche ?» Alors, il y a des cas où on continue à lui dire « Bah, tu n'en fais rien », et puis, il y a de plus en plus de cas où cette question, est, je dirais, ce verrou saute et où vous avez une sorte de liberté formelle, comme je le disais, qui permet vraiment de redéployer la logique des doctorats. Un petit mot aussi pour vous dire qu'on est en train de travailler beaucoup à, forcément, puisque nous sommes une direction de la création, au devenir des formes artistiques d'aujourd'hui et à cette idée très complexe pour un ministère, mais qu'il nous faut assumer que la notion de discipline a fait feu. Elle n'est plus à l'œuvre chez les artistes eux-mêmes. Je parne bien du terrain des artistes. Ils ne se positionnent plus en ces termes-là. Ils ont des parcours, pour les raisons que j'ai dites, tellement multiples, tellement croisés, tellement croisant, c'est-à-dire il croise tellement les formes que ces formes ne résistent pas. Et on ne peut pas définir les artistes d'aujourd'hui, la plupart, pas tous, par une seule, secteur, par une seule origine sectorielle, par un seul trajet. Ils sont faits de plusieurs trajets, ils sont tissés de plusieurs fils, et c'est ça qui rend très difficile pour nous l'organisation de leur travail. Et du coup, ce qu'on a mis en œuvre, ce qu'on a déduit au fond de cette situation, c'est qu'il ne fallait plus penser en discipline, mais qu'il fallait penser à l'aune justement de ces singularités, en proposant un fonds d'aide transversal qui ne regarde plus le travail des artistes à partir de leur provenance, mais simplement à partir de leur projet, à partir de ce qu'ils font et de leurs actes. Prenons un exemple concret. Dans le cirque, il y a un personnage assez fascinant qui s'appelle Johan Le Guilherme. Johan Le Guilherme est un jongleur au départ, et très rapidement, évidemment, le jonglage, la pesanteur, le poids de la matière l'a fait se questionner. Et depuis 20 ans, il mène, parallèlement au spectacle qu'il produit, qui tourne beaucoup, il est très reconnu, un véritable travail de recherche où il s'entoure de compétences, d'expériences et de points de vue qui ne sont pas du tout ceux du cirque ou même de l'art en général. Et ce travail est totalement souterrain, ce travail n'est pas visible, et du coup ce travail est assez difficile à reconnaître. Et typiquement, le fonds d'aide dont je vous parle est là pour aider à la caractérisation de ce type de travail. Un autre axe de travail, une orientation très importante pour le ministère, c'est les revues. Je pense que l'endroit de véritable émergence d'un nouveau qui serait structurant, ça a toujours été la revue. C'est ce qui fabrique un champ et une histoire donnée. Si on reste sur l'histoire du théâtre, toute l'histoire du théâtre du XXe siècle en France est fondée sur les revues. Théâtre populaire, travail théâtral, théâtre public. Toutes ces revues ont fondé des générations d'artistes et nous permettent rétroactivement, je dirais presque, d'en attraper les deux. La nouveauté éphémère, celle qui, 20 ans plus tard, nous apparaît comme tellement fade, tellement inimaginable. Comment a-t-on pu aimer ça, quoi, cette fameuse phrase? Et puis de l'autre, vous avez dans les revues le dépôt, la consignation de tout ce qui fait le cœur d'une époque. Et je dois dire qu'un autre symptôme du fait que le champ est un peu en friche, hein, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire, et que beaucoup de choses sont à reconstruire, c'est que vous n'avez pas de politique des revues. Il n'y a pas de politique des revues, je parle des revues dans notre secteur, hein, secteur culture. Il n'y a pas de politique des revues, donc elles sont extrêmement éphémères, pour le coup, extrêmement fragiles, et surtout, elles ne touchent pas le public qu'elles devraient toucher. Donc là, il y a vraiment à prendre en compte cette question. La ministre précédente avait très courageusement défendu l'idée de la jeunesse, cette fameuse idée, mais très concrètement. Et ça se traduit par un certain nombre d'émergences concrètes. Hein. On parle des ministres toujours un peu au présent et jamais quand ils sont passés. Mais c'est là qu'il faudrait parler des ministres, parce que c'est là qu'il y a les effets de leur travail. Donc l'un des effets de ces assises de la jeune création qu'elle avait organisées, c'est l'élaboration d'une Villa Médicis à Clichy-Montfermeil. Donc l'idée qu'il y ait un lieu de résidence, laboratoire, production, réflexion, dédié aux jeunes artistes dans ce territoire de Clichy-Montfermeil, qui est un peu l'antithèse de la Villa Médicis initiale, originelle. Et voilà un projet qui me semble pouvoir être extrêmement fédérateur. Et à l'intérieur de ce projet, il va y avoir une plateforme numérique sur laquelle nous sommes en train de travailler, où nous souhaitons traduire numériquement, finalement, cette communauté dont je parlais, cette communauté des chercheurs en art. Vous dire aussi que ces questionnements au ministère de la Culture, nous les partageons avec d'autres partenaires. J'ai évoqué l'ANR tout à l'heure. Nous organisons depuis 3 ans, avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, un événement qui s'appelle Rencontre Recherche-Création, avec le Festival d'Avignon, pendant le festival, où sont conviées cette double communauté, finalement. La communauté des chercheurs qui traduit cette tradition d'excellence de l'ANR, et la communauté des artistes qui sont programmés par le Festival d'Avignon, qui, comme je vous le disais, sont en eux-mêmes des chercheurs, mais qui ne l'ont pas forcément formalisé. Et tout d'un coup, grâce à ces rencontres, on a vu depuis 3 ans s'établir un dialogue entre les gens qui, à la fois, sont très loin, très éloignés, et en réalité sont très proches. Ça a été vraiment pour nous l'occasion de vérifier que, oui, il y a bien une communauté, il y a bien un socle commun. Je m'arrête juste sur un tout dernier point pour dire donc que la recherche, c'est sans doute préserver des conditions de très grande fragilité. C'est donc, oui, je n'ai pas dit ne pas évaluer. Pour un ministère, c'est un paradoxe, mais il n'y a rien à évaluer. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Qu'est-ce qu'on peut demander en amont? Donc la notion même de dossier ne tient pas. Vous voyez que c'est un peu compliqué pour un représentant du ministère de dire ça, mais c'est la vérité. C'est une projection. Le dossier qu'on nous envoie pour être soutenu n'est que la projection de ce qui va advenir, si ça doit advenir. Donc nous ne pouvons pas évaluer avec les catégories traditionnelles de l'évaluation. Par contre, il faut à chaque fois, et c'est ça que j'appelle le prototype, établir un contrat précis avec l'artiste, l'équipe, le laboratoire dont il est question. Donc, du plus intime à préserver au plus large, car oui, la recherche en art, ça peut se partager, ça doit se partager. Et c'est la raison pour laquelle on m'avait posé la question quand je suis arrivé, mais ça se montre comment? J'avais tourné autour de l'idée d'un festival, et puis ça, c'était pas la bonne idée, parce qu'il faut sortir justement de la notion de production. Et du coup, je me suis dit, il faut faire une grande émission de radio. Il faut rassembler les gens, rien de tel que le médium de la radio. Donc sortir du médium du discursif. Au fond, on est terriblement prisonnier du discursif. Et je me suis rendu compte que pour les artistes, c'est compliqué. Par exemple, venir parler dans un colloque, c'est pas leur médium, c'est pas leur... Du coup, la radio, une nuit entière de traversée, de voyage dans ce monde des pionniers de la recherche en art, qui donc va être coproduite par France Culture à la fin de l'année civile 2016. Voilà pour nos scènes de recherche en cours et à venir.
Merci, merci vraiment beaucoup. Merci de nous avoir rappelé que la recherche, c'est de la transmission, que c'est du partage et que ça ne peut pas se penser sans une communauté. Et je pense que tout ce que vous avez raconté pourrait vraiment être repensé aussi pour la recherche en sciences sociales. Vous avez parlé de la question de la discipline qui se pose aussi dans nos matières. Donc merci infiniment.